Dr Pierre Della Monica, qui est infectiologue donc, à Nice et à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, et qui vous êtes aussi membre du comité du plan antibiotique national. Voilà.
Merci de m'avoir invité à ce colloque. Et donc, je vais vous parler de la résistance aux antibiotiques en 2013. Alors, une des premières choses que je voudrais dire par rapport au titre de ce colloque, qui s'appelle Environnement, émergence, santé. Le terme comportement, je pense, manque de façon cruciale. Et c'est évidemment par les comportements qu'un certain nombre d'attitudes perverses pourront être renversées. Alors, le problème dont je vais vous parler est aussi un problème qui n'est pas du long terme, qui n'est pas du court terme, mais qui est immédiat. Et donc, c'est un problème qui est particulièrement majeur. Et ici, les diapositives marchaient, ce serait bien. Voilà. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est celui de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc, je vais vous citer quelques éléments parus dans la presse pour vous indiquer, en fait, que c'est un problème qui est programmé de longue date et qui arrive maintenant aujourd'hui, et pour lequel donc on nécessite une prise en compte immédiate, rapide donc, et excessivement efficace. Donc vous voyez, le Figaro indiquait « Microbes résistants et manque de nouvelles molécules font craindre aux chercheurs réunis à Boston une crise sanitaire majeure ». Donc on est maintenant dans cette situation et je vais essayer de vous le documenter. Et le point presse de la CPAM de Nice en 2013, vous voyez, rappelait les mêmes choses. Le phénomène est préoccupant, puisque chaque année au sein de l'Union européenne, 25 000 patients meurent d'une infection liée à des bactéries multirésistantes qui n'ont pu être traitées faute d'antibiotiques. Pour cibler sur des infections, on se trouve aujourd'hui dans une situation d'impasse thérapeutique dans un certain nombre de situations cliniques, et ceci ne va faire qu'en s'amplifiant. Alors, simplement pour vous montrer que la résistance bactérienne est un problème qui est excessivement préoccupant, je vous ai mis ici les dates de commercialisation d'un certain nombre d'antibiotiques. Et vous pouvez voir que, par exemple, pour la pénicilline qui a été commercialisée en 1943, eh bien, dès 1945, on avait la description de bactéries résistantes. Et vous voyez que le délai entre la commercialisation et la résistance est excessivement court, ce qui montre que les bactéries ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire par rapport à leur environnement. Donc, en pathologie humaine, la résistance bactérienne se définit par rapport aux antibiotiques, donc dans le cadre du traitement d'une infection bactérienne. Parce qu'évidemment, on pourrait faire de l'épidémiologie de la résistance, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est prévenir l'échec thérapeutique. Alors, pour ça, il faut arriver à définir le spectre antibactérien d'un antibiotique, ce qui permet de classer en définitive les bactéries par rapport à un antibiotique, en sensible, résistante, et puis entre les deux, il y a une zone d'incertitude. C'est la raison pour laquelle on dit zone intermédiaire. Et donc, l'outil que nous utilisons tous en tant que médecin est l'antibiogramme, mais encore faut-il, pour faire un antibiogramme, avoir la bactérie responsable de l'infection. Alors, l'OMS a bien fait cette distinction en définissant, en donnant une définition, je dirais, épidémiologique, que vous voyez sur votre gauche, et une définition clinique qui, je le rappelle, est: une souche bactérienne est dite résistante quand elle supporte une concentration d'antibiotiques notablement plus élevée que la concentration qu'il est possible d'atteindre in vivo. Donc c'est par rapport à l'in vivo, évidemment, que nous allons définir notre résistance clinique. Alors comment se passe la résistance? Eh bien, il y a deux sortes de résistance, en gros. Il y a un certain nombre d'espèces bactériennes, vous voyez, qui ont une résistance je dirais qu'elle est naturelle, donc elle est chromosomique, elle est fixe, elle est constante, elle concerne une espèce bactérienne et un antibiotique ou une famille d'antibiotiques, et elle est à transmission verticale. Ceci s'oppose à la résistance qui est acquise, donc c'est quelques souches d'une espèce qui tente à se répandre, Et dans ce cas-là, si vous voulez, la résistance apparaît par mutation. Donc, quand une bactérie se réplique, elle se réplique en général très vite, évidemment, par rapport à l'espèce humaine, elle est capable de faire des erreurs. Et ceci, donc, c'est la mutation qui va donc donner une espèce résistante. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est celui-ci beaucoup plus répandu, c'est la résistance extrachromosomique. Donc, ce sont des éléments génétiques de bactéries résistantes qui se promènent, qui peuvent aller contaminer des bactéries sensibles de la même espèce ou être transférées d'une espèce à l'autre. Donc, c'est ce type de problème aujourd'hui qui est le plus problématique et contre lequel donc, on essaye de lutter. Car vous avez bien compris que chaque fois qu'on va mettre un traitement antibiotique, eh bien, on va tuer les espèces sensibles pour laisser les résistantes. Et les résistantes vont ainsi se transmettre beaucoup plus facilement. Donc, ce mécanisme fait en général appel à ce qu'on appelle des plasmides, ce que vous avez schématisé ici. Vous voyez qu'ils sont des éléments génétiques circulaires et qui vont pouvoir coder pour plusieurs mécanismes de résistance concernant un ou plusieurs antibiotiques. Et donc, ces petits éléments génétiques sont transférables, évidemment, dans la même espèce bactérienne, mais aussi interespèce. Ici, vous avez schématisé un de ces plasmides pour vous montrer qu'il peut coder énormément d'informations pour la bactérie qui va l'acquérir. Alors, dans certains cas, ces plasmides restent, vous voyez, dans le cytoplasme de la bactérie et peuvent être perdus par la bactérie, mais dans un nombre non négligeable de situations, ils s'intègrent au génome de la bactérie et ainsi deviennent transférables verticalement. Alors, quels sont les mécanismes qui vont générer la résistance? Alors, je rappelle très brièvement, le mécanisme essentiel, ce sont des enzymes qui vont inactiver l'antibiotique. Donc, si on prend les bêta-lactamines, eh bien, ce sont les bêta-lactamases. Si on prend les aminosides, ce sont des phosphotransférases, des acétyltransférases. Et donc, dès que l'antibiotique va pénétrer dans la bactérie, vous voyez, par ces petits pores que vous voyez ici, eh bien, il va rencontrer l'enzyme inactivant et ainsi être détruit. Deuxième mécanisme que vous voyez ici, c'est par exemple une cible. Donc, je vous ai représenté une protéine liant la pénicilline. Si la cible mute, eh bien, la bactérie devient résistante. Donc, pour beaucoup d'antibiotiques et d'espèces bactériennes, on connaît les modifications de ces sites. Enfin, il peut y avoir de la diminution de la perméabilité. Donc, l'antibiotique qui pénètre par ces petits pores que vous voyez ici, eh bien, ces pores peuvent se fermer ou être sélectifs par rapport à certaines molécules. De ce fait, l'antibiotique ne pouvant rentrer, ne peut plus exercer son effet. Et la fermeture des porines, en fait, va générer des bactéries multirésistantes dans la majorité des cas. Et enfin, il y a des bactéries qui peuvent avoir des mécanismes qui vont rejeter l'antibiotique à l'extérieur, c'est les flux. Donc, vous voyez que les possibilités sont immenses, et même si on prend simplement les enzymes inactivants. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure où vous voyez, on peut voir que ces enzymes sont multiples. Alors, comment déterminer la sensibilité et la résistance? Eh bien, il y a différentes techniques que vous connaissez. C'est l'antibiogramme standard que vous voyez ici. Il y a d'autres techniques qui permettent d'avoir des résultats chiffrés. Et donc, le principe, c'est on met un petit disque de buvard chargé d'antibiotiques qui va diffuser dans une gélose qui a été ensemencée par des bactéries. Et donc la diffusion fait que proche du disque, on a une concentration élevée, s'éloignant, elle diminue, et ça va donc créer un diamètre d'inhibition, vous voyez ici, qui va permettre de dire si la bactérie est sensible ou résistante, en corrélant aux concentrations qu'on peut obtenir in vivo. Car, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la définition, c'est bien par rapport à ce que nous pouvons faire chez l'homme ou chez l'animal en utilisant un antibiotique. Et puis, vous avez des techniques plus sophistiquées que vous voyez en bas qui permettent de chiffrer éventuellement cette résistance. C'est ce qu'on appelle les concentrations minimales inhibitrices. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on peut se poser la question, qui va gagner la bataille de la résistance? Eh bien, les bactéries sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous. Et vous voyez que, en gros, les humains sont ici depuis 450 millions d'années.
ce qui ressemblait aux humains, alors que les bactéries sont là depuis 4 milliards 500 millions d'années. Si on regarde l'ensemble des bactéries, évidemment, c'est des chiffres extrapolés, en tonnes, eh bien, c'est bien supérieur. C'est bien supérieur à ce qu'on a en termes de, je dirais, de masse humaine, comme vous pouvez le voir ici. Et le temps de génération d'une bactérie, c'est 30 minutes, celle d'un homme, c'est 30 ans. Donc les bactéries, si vous voulez, ont un avantage évident, c'est-à-dire qu'elles ont été exposées à des conditions d'environnement chimiques, thermiques, tout ce que vous voulez, qui est bien supérieur aux nôtres, et donc elles ont des capacités d'adaptation qui sont extraordinaires. Donc on est dans une course, on est dans une course, et comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, il n'y a pas de nouveaux antibiotiques, et donc on va être obligé pour les 7 à 10 années qui viennent de faire avec ce que nous avons. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que ce problème est excessivement urgent et qu'il va falloir diminuer la pression de sélection. Alors, qu'entend-on par pression de sélection ? Eh bien, c'est que chaque fois qu'on prescrit un antibiotique à un patient, on va tuer la flore sensible et évidemment la bactérie responsable de l'infection, si l'antibiotique marche. Mais ce qui va rester chez le patient, c'est essentiellement les bactéries résistantes. Et vous avez, de ce fait, une destruction des flores commensales sensibles qui joue aussi un rôle pour empêcher les bactéries résistantes de s'implanter. Et donc, les espèces résistantes, de ce fait, vont pouvoir proliférer excessivement facilement. Alors, vous avez l'exemple qui a été pris par votre collègue il y a 2 minutes concernant le tube digestif. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une flore polymorphe dans le tube digestif d'un patient, donc des bactéries sensibles, quelques-unes qui sont résistantes. Vous prescrivez un antibiotique, tout ce qui est sensible disparaît, il ne reste que le résistant. Alors, évidemment, le patient va devenir porteur de ces bactéries résistantes, mais il va aussi les transmettre d'une personne à l'autre. Donc, en définitive, comment une antibiothérapie chez un individu a-t-elle un impact collectif qu'on ne voit pas, évidemment, Eh bien, c'est par ce mécanisme de sélection et ensuite de transmission. Donc, d'un problème qu'on pourrait dire individuel, celui du traitement d'une infection, eh bien, on génère en définitive une difficulté future collective, d'où l'intérêt de la permanence de l'hygiène pour limiter ces transmissions de bactéries multirésistantes. Alors, voilà le schéma général de ce que je viens de dire. Donc, on prend un traitement antibiotique, on a des contacts avec d'autres personnes. Ces autres personnes vont évidemment acquérir les bactéries résistantes sélectionnées par l'intermédiaire de ce traitement. Donc, au-delà, si vous voulez, du traitement individuel, il y a un impact collectif qui est évident. Alors, les points clés du développement de la résistance en pratique, c'est 2 facteurs principaux qui conduisent au développement de la résistance bactérienne. Donc, d'une part, les antibiotiques pour la sélection des mutants résistants, et d'autre part, les contacts entre personnes ou animaux ou un environnement contaminé, surtout si les pratiques d'hygiène sont imparfaites. Une personne peut donc avoir acquis une bactérie résistante de 2 façons, mais qui ne sont pas exclusives. Elle a été traitée par un antibiotique dans les mois précédents, ou elle a été en contact avec une personne ou un animal dans un environnement contaminé. Par conséquent, les effets d'une antibiothérapie sont à la fois individuels et collectifs. Donc, chaque fois que vous prescrivez un antibiotique, ayez à l'esprit cet impact collectif. Dans tous les pays où le mésusage des antibiotiques et où la prescription est très importante, sont plus à risque. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Car la France est l'un des pays les plus consommateurs d'antibiotiques du monde. Après avoir été les premiers pendant de nombreuses années, on est maintenant les troisièmes, derrière la Grèce et Chypre. Donc on a un réel problème puisqu'on consomme, vous prescrivez, 2 à 3 fois plus que dans les pays du nord de l'Europe, par exemple. 2 à 3 fois plus. Et sans 0 bénéfice, évidemment, avec un coût pour l'assurance maladie. D'autre part, les pays émergents, eh bien, ont le problème d'une éducation médicale qui n'est pas tout à fait au point. Donc, des prescriptions qui sont très anarchiques, une hygiène qui est très défectueuse. Donc, eux sont dans une situation très différente de sélection de mutants résistants.
Alors, comment limiter la sélection des bactéries mutantes résistantes à un antibiotique? Eh bien, une bactérie responsable d'infection est identifiée par un prélèvement. Donc, il faut faire des prélèvements et de plus en plus parce que les bactéries responsables d'infection sont résistantes. Donc, vous risquez de donner un traitement sans effet. Donc, il faut faire plus de microbiologie. Sinon, il faut disposer de paramètres permettant de suspecter cliniquement si la bactérie responsable de ce type d'infection est sensible. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire une antibiothérapie probabiliste. C'est par exemple l'angine, à condition de faire un test de diagnostic rapide. Et je rappelle au jour d'aujourd'hui que seuls 16% des médecins généralistes pratiquent ce test. Que sur les 8 millions d'angines qu'il y a en France, seulement 25 à 30% sont d'origine streptotoxique, alors que plus des trois quarts sont encore traités par antibiotiques. Donc imaginez la pression de sélection rien que sur cette pathologie qui est induite de façon inutile. Donc je pourrais prendre de multiples exemples, mais là il y a un test, c'est facile à faire et on peut se demander pourquoi en France ça n'est pas réalisé. Donc le bon usage des antibiotiques est un facteur pour éviter les échecs du futur. C'est assurer des concentrations suffisantes au site de l'infection, donc les bonnes posologies, l'espacement des prises, la durée recommandée. Et bien souvent, les patients en France mal éduqués par rapport aux patients du nord de l'Europe sont peu respectueux de vos ordonnances. Donc il est utile, quand vous jugez nécessaire de prescrire un antibiotique, de rappeler ses nécessités. Simplement, pour vous donner quelques exemples, voici en 2002, sur la carte qui est à votre gauche, la résistance d'Escherichia coli, donc agent en médecine générale essentiel d'infection urinaire. Vous voyez, les résistances inférieures à 1% pour les céphalosporines de troisième génération. Donc, on est en 2011, sur la carte de droite, vous voyez 8%. 8%. Donc, c'est une augmentation importante. Maintenant, si on prend la résistance au carbapénem, eh bien, vous voyez, donc, c'est des bactéries vraiment multi-résistantes pour lesquelles il n'existe qu'une seule classe d'antibiotiques encore efficace. Eh bien, on voit que la résistance à cette classe ne cesse d'augmenter, donc provenant essentiellement des pays d'Europe du Sud, Grèce, Italie, dans lesquels on sait que le mésusage est très important. Et vous voyez ici ce qui est en train de se passer en France, donc l'émergence de ces entérobactéries productrices de carbapénémase entre 2004 et 2012. Donc considérez avec moi que c'est quand même très problématique ce qui est en train de se passer. Et simplement ce tableau sur lequel je vais aller très vite pour vous dire que les mécanismes de résistance possibles par carbapénémase sont eux-mêmes multiples, c'est-à-dire que les bactéries sont armées de façon tout à fait extraordinaire pour résister à ces antibiotiques de dernière génération, les plus efficaces que nous ayons aujourd'hui et qui sont en train de perdre leur efficacité. Ceci pour encore plus attirer votre attention, c'est d'ici les consommations de ces carbapénèmes. Ici, vous avez des pays émergents. Ici, vous avez des pays développés. Vous voyez que dans les pays émergents, le mésusage est tel qu'ils sont confrontés maintenant à des niveaux de résistance qui sont énormes. Et donc, ils sont obligés d'utiliser ces antibiotiques excessivement chers. Et leur consommation, vous voyez, a monté en flèche si on veut soigner les gens dans ces pays-là. Et il est clair que par les voyages internationaux, eh bien, ces bactéries sont ramenées dans les pays développés où on voit de la même façon l'augmentation des consommation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure concernant la France. Tout ceci vous explique qu'il y a un plan d'alerte concernant les antibiotiques. Et donc, ce plan d'alerte, c'est un plan donc, qui a été édité en 2011, qui va jusqu'en 2016. J'espère qu'il sera renouvelé du fait de l'importance du sujet. Vous avez ici des références auxquelles vous pouvez vous référer pour voir les détails de ce plan. Et donc, en gros, comment faire pour faire baisser la résistance? Alors, on a créé des référents antibiotiques donc, qui doivent exercer leur fonction non seulement à l'hôpital, mais en ville. Et donc, s'il y a des numéros de téléphone disponibles, vous avez un problème de prescription, il faut les appeler pour discuter et avoir un conseil. Il y a la formation continue des professionnels de santé, donc DPC, ROSP, pour justement inciter à une amélioration de la prescription, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'en France, on prescrit 3 fois plus que dans les pays du nord de l'Europe, donc il y a une marge très importante d'amélioration. Donc, on se base sur des recommandations locales, nationales, HAS, sociétés savantes, etc. On peut, pour les cas difficiles, faire des réunions de concertation pluridisciplinaire, le PP et la nécessité de réévaluer les traitements antibiotiques à 48 heures. Et puis, pour la pratique de ville, je le rappellerai, je l'ai déjà dit, et je voudrais enfoncer le clou, pourquoi les TDR ne sont pas utilisés, pourquoi le vaccin contre la grippe est si mal diffusé. Sachez simplement que le vaccin contre la grippe, d'après les études, évite 10 à 33% de prescriptions d'antibiotiques dans les populations vaccinées en période hivernale. 10 à 33, c'est énorme. Et prochainement, on va avoir une liste d'antibiotiques à dispensation contrôlée. On est même en train de réfléchir à une ordonnance spécifique pour la prescription des antibiotiques pour essayer de limiter ce qui est en train de se passer. Alors, on fait des campagnes grand public. La première campagne, qui a été la campagne test, a été faite dans les Alpes-Maritimes. C'est antibio quand il faut. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, vous voyez, on est dans du marketing social. On a bien compris que c'était un phénomène de société contre lequel il était difficile de lutter. Donc, on travaille là-dessus, mais il faut que les médecins, si vous voulez, sachent résister à la demande de prescription. Voilà donc en gros où on en est aujourd'hui. Et je souhaite très sincèrement que ce problème, qui n'est pas réellement un problème émergent, qui n'est plus, qui a notre porte aujourd'hui, soit vraiment pris en considération et que la médecine en France puisse appréhender cette question et essayer de réviser le mode de prescription des antibiotiques.